OK, on va continuer notre série sur la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, on va regarder la souveraineté du Dieu trinitaire dans le salut. On avait fait un bref résumé de ce qu'on avait vu depuis le début. Donc, dans le premier sermon, on avait défini la souveraineté de Dieu. Dans le deuxième, on avait développé l'idée que le Seigneur règne sur la création, les créatures animées, les éléments, les créatures inanimées. Dans le troisième et quatrième, on avait étudié qu'il règne sur les anges bons et mauvais. Dans le cinquième, qu'il règne sur les hommes individuellement et collectivement. Dans le sixième, on avait réalisé que Dieu lui-même affirme sa prérogative ou son avantage, qui est un droit qui est rattaché à sa fonction et à son état, de régner souverainement, de gouverner, de contrôler parfaitement toute sa création. Et dans le sermon qu'on avait commencé la semaine dernière, on avait vu que c'est le Dieu trinitaire qui a décidé du sort et de la destinée éternelle des individus. Alors, le Dieu trinitaire est souverain dans le salut. On va reviser très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, le Dieu trinitaire est souverain dans le salut. Après que Adam et Ève ont chuté dans le péché, le Seigneur avait déjà prévu cette chute-là, et les trois personnes de la Trinité avaient souverainement décidé de concevoir le plan du salut, de décider des moyens par lesquels ce salut-là serait pour s'accomplir, et les rôles de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit ont été entendus en conseil trinitaire, divin, dans l'éternité, comment ça se déroulerait dans le temps. Alors, tous les détails de ça étaient compris dans un conseil trinitaire, divin. Ce qu'on avait rappelé la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle dans théologie l'alliance de la rédemption. Pourquoi on appelle ça l'alliance de la rédemption? C'est parce que les décisions concernant le salut des hommes avaient déjà été décidées dans le conseil trinitaire. Conseil trinitaire, donc, il y a trois personnes en Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit s'entendaient sur la façon dont c'était pour se faire dans les détails, le rôle de chacun. Alors, c'est important qu'on se souvienne de ça. Ça s'appelle l'alliance de la rédemption. Alors, on avait regardé que la souveraineté, ça, on avait regardé plusieurs versets qui nous démontrent que c'est le rôle des trois personnes qui se sont entendues entre eux. Mais après ça, ce qu'on veut faire, c'est de regarder le rôle de chacun. Le rôle de Dieu le Père, le rôle de Dieu le Fils, le rôle de Dieu le Saint-Esprit. Alors, on avait regardé la semaine dernière que la souveraineté de Dieu le Père dans le salut, d'abord, en nous rappelant que c'est lui qui a pris l'initiative de venir sauver les hommes. Après la chute, il aurait pu laisser les hommes aller à leur destinée éternelle. Ça aurait été l'enfer, puis ça aurait été final. Alors, il avait décidé que ça se produirait pas comme ça, qu'il permettrait que les hommes, par la grâce, puissent se réconcilier à lui et profiter de la vie éternelle. On avait vu aussi que Dieu le Père, c'est lui qui a planifié, qui a proposé et qui a réglé l'alliance de la rédemption. Autrement dit, il a dit, Dieu le Père a proposé à son Fils de se charger, de prendre soin des élus. Deuxièmement, de pourvoir à leur rédemption. À cause du fait qu'on était pécheurs, on avait chuté dans le péché en Adam, s'arrêter normalement notre destinée d'aller en enfer pour l'éternité. Donc, Dieu le Père a demander au Fils, et le Fils a accepté de pourvoir à notre rédemption. Et il avait demandé aussi au Fils de prendre une nature humaine, et que c'est dans sa nature humaine qu'il servirait d'offrande parfaite à offrir à son Père. Il avait demandé aussi au Fils d'obéir parfaitement à la loi, à la place des élus. Donc, en théologie, l'obéissance active, vous avez souvent entendu parler de ça depuis que je suis arrivé, l'obéissance active, l'obéissance passive. L'obéissance active, c'est vraiment l'idée que Jésus a accompli à la place des élus, toute la loi, ce que Dieu demandait à chacun d'entre nous, qu'on ait obéi à la perfection, à tous les commandements, à tous les jours de notre vie, sans avoir manqué une seule fois, sinon tu ne vas pas rentrer au ciel. Alors, si nous, on ne l'a pas fait, et qu'on peut rentrer au ciel, ça implique que quelqu'un qui l'a fait à notre place. En théologie, c'est la doctrine de la substitution. Il s'est substitué à nous pour accomplir la volonté divine à notre égard, à tous et chacun. Et il y avait aussi ce qu'on appelle l'obéissance passive, c'est de souffrir à la place des élus la punition qu'eux auraient dû subir. Il l'a subi volontairement à notre place. Alors, toute personne qui est sauvée, ça veut dire que Christ a pris l'équivalent des souffrances que nous aurions dû subir en enfer, il l'a subi à notre place. Alors ça, c'est tous les deux aspects, autant la question d'obéir à la loi que l'aspect de subir la punition à notre place, il a accepté de le faire volontairement. Et c'est le Père qui lui avait demandé. Et aussi, il lui avait demandé de paître ses brebis à Jésus, de paître ses brebis. Donc, on vient de faire rapidement ce qu'on avait regardé la semaine dernière, la part du Père dans le salut. On va regarder maintenant la souveraineté de Dieu, le Fils, dans le salut. Autrement dit, la part de Jésus-Christ. Alors, il faut se souvenir que Jésus a accepté et il a consenti librement à accomplir et à réaliser tout ce que le Père lui avait confié. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été forcé, ça avait été décidé dans le conseil divin, et quand il est venu sur la terre, il a simplement accompli ce que le Père lui avait demandé. Alors, ça dit dans le psaume 40, au verset 7 et verset 8, dans le contexte où on parle de Jésus, il dit « Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, mon Dieu, je mets mon plaisir à faire ta volonté et ta loi est au fond de mes entrailles. » Alors, Christ a accepté de remplir toutes les fonctions que le Père lui avait confiées. On va en regarder quelques-unes. L'incarnation. Il fallait, comme ça dit dans les Écritures, qu'il s'humilie, lui étant Dieu, la deuxième personne de la Trinité, venir s'incarner dans une chair d'homme et que les hommes le perçoivent comme s'il était un pécheur comme les autres, alors qu'il était parfait. Alors, il a accepté de s'incarner. Il a accepté de devenir la tête et le représentant de ses élus. Autrement dit, si on peut recevoir le bénéfice de l'obéissance parfaite de Jésus-Christ sur la terre, c'est parce qu'on est en lui, il est notre tête. Et il est notre représentant, le représentant du peuple, le médiateur aussi. Les Écritures disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, il a accepté d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Et il a accepté d'être le garant, pas se porter garant de quelqu'un, on le sait, il se porte garant de nous. Et il a été aussi le testateur et le messager. Donc, il a accepté et consenti librement aux conditions, à l'accomplissement des conditions que le Père lui avait confiées. Ensuite, Jésus-Christ est mort et a souffert pour ses élus seulement. On a dans Ésaïe 53, versets 10 et 11. « Et il a plu à l'Éternel de l'écraser. Il l'a mis dans la souffrance. Quand son âme aura fourni le sacrifice de culpabilité, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. » Il verra le fruit du tourment de son âme et en sera rassasié. Par sa connaissance, le juste, mon esclave, justifiera beaucoup de gens et lui-même, il se chargera de leurs iniquités. Alors, il parle de se charger des iniquités des gens de son peuple. Alors, ça dit, se chargera. Et ça dit aussi dans Jean 6, versets 37 à 40, concernant cela, Jésus parle, c'est lui-même qui parle et dit, « Tout ce que me donne le Père viendra à moi. » Alors, ça l'implique que le Père a donné des individus dans le temps et dans l'espace, répartis à partir du début jusqu'à aujourd'hui, pour leur accorder le salut. « Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Parce que je suis descendu du ciel pour faire... non point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. » Verset 40, « Or sort ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. » Ensuite, on va regarder que Jésus-Christ a accepté d'accomplir les deux aspects de l'expiation. Ça, souvent, on a besoin de se faire remémorer ça à la mémoire, parce que malheureusement, dans certaines versions modernes, on a évacué la notion de propitiation. Il y a au moins 4 versets qui parlent de propitiation. Propitiation, c'est détourner la colère de Dieu. Alors, le mot expiation, si on se sert uniquement de lui et qu'on évacue le mot propitiation, il y a un aspect du salut qu'on évacue. C'est pas vraiment correct. Alors, quand on regarde, la propitiation, c'est que Christ a d'abord fait l'œuvre du salut pour son Père. Détourner la colère, c'était pour lui redonner l'honneur qui lui était dû. L'œuvre de la propitiation, c'est vraiment une œuvre qui est faite vis-à-vis de Dieu lui-même. C'était pas nécessairement pour les hommes en premier. D'abord pour le Père, pour lui redonner sa gloire, et ensuite, les bénéfices reviendraient aux hommes. Alors, quand on regarde l'œuvre de Christ à la croix, fut une propitiation destinée à apaiser la colère et donner une satisfaction à la justice et à la sainteté divine. Dieu étant parfaitement saint, Dieu étant parfaitement juste, il fallait que si nous ne payons pas les péchés qu'on a commis, il fallait que quelqu'un les prenne à notre place. La justice a satisfait pleinement la justice de Dieu, mais si Dieu est en colère contre les pécheurs, il fallait que cette colère-là soit détournée. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Et quand des versions modernes enlèvent le mot propitiation, ils enlèvent une notion importante du salut qu'ils enlèvent. Alors, quand on regarde dans Romains 3, versets 23-25, « Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen du rachat qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a d'avance établi propitiation au moyen de la foi en son sang. » La propitiation, c'est vraiment le détournement de la colère de Dieu sur une autre personne que celui sur lequel c'est destiné. C'était destiné sur nous. On aurait dû la subir, ce jugement-là, en enfer, pour l'éternité. Imaginez-vous jusqu'à quel point c'est grave, le péché. Dieu n'aurait jamais été satisfait et on reviendra sur l'enfer, là. Des fois, hier, je relisais dans un manuel que j'ai à la maison, « The Sinfulness of Sin », il y a un chapitre à peu près d'une vingtaine de pages sur l'enfer. Et j'ai relu ça, ça m'a fait du bien de relire ça, parce que c'est tellement... On oublie la notion que même en enfer, les gens vont continuer à pécher. Ils vont blasphémer, même en enfer. À quelque part, c'est des notions qu'on aurait besoin de réviser. Alors, ce que Dieu a... Ça dit dans le verset 25, Romains 3, 25, que Dieu a d'avance établi propitiation. Donc, Dieu avait décidé que c'était Jésus-Christ qui recevrait à notre place la punition qui aurait dû être la nôtre. Alors ça, c'est une propitiation, détourner la colère. Hébreux, chapitre 2, versets 16 et 17. « Car certes, ce ne sont pas les anges qu'il prend à lui, mais il prend la postérité d'Abraham. » D'où il a dû, en toute chose, être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui regardent Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. 1 Jean chapitre 2, verset 2, on parle de Christ. « Et il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, mais aussi pour le monde entier. » On a aussi un autre verset qui parle de propitiation, 1 Jean 4, 10. « C'est en ceci qu'est l'amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. » Donc, la propitiation, c'est d'abord une œuvre envers Dieu. Maintenant, quand on regarde l'autre aspect de l'expiation, c'est la substitution. On sait ce que c'est, se substituer. Si c'était la colère était due pour être la nôtre, et Christ a décidé de la prendre à la place, donc il s'est substitué à nous pour deux choses. On l'a dit tantôt dans l'obéissance active. Il s'est substitué à nous pour accomplir la loi de la perfection. Il s'est substitué à nous pour recevoir volontairement la punition qui aurait dû être la nôtre à notre place. Alors, la substitution, c'est une œuvre envers les élus. Voyez-vous, la propitiation, c'est envers Dieu, puis la substitution, c'est envers les élus. Alors, vis-à-vis de l'homme, l'œuvre de Christ fut une substitution. L'innocent prenant la place du coupable, le juste mourant pour des injustes. On va aller dans Galates 3, versets 10 à 13. « Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites au livre de la loi pour les pratiquer. Et quand la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, c'est évident, parce que le juste vivra par la foi. Or la loi n'est pas par la foi. » Mais l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elles. Verset 13. Christ nous racheta de la malédiction de la loi quand il fut fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». On était en Christ. Et quand le Père a déversé la colère qui aurait dû être la nôtre, il l'a déversé sur son Fils. Alors c'est très important de saisir ce concept-là. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, ça dit « qui porta lui-même nos péchés ». On parle de Christ. « Qui porta lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vécussions à la justice, lui enfin par la meurtrissure duquel vous avez été guéris ». Et 2 Corinthiens 5, 21, que je vous ai dit souvent. 2 Corinthiens 5, 21, si jamais vous voulez partager l'Évangile à quelqu'un et vous ne vous souvenez pas des versets que vous devriez utiliser, utilisez toujours 2 Corinthiens 5, 20 et 21. L'Évangile est tout là dans un verset. L'Évangile en capsule, comme on peut dire. 2 Corinthiens 5, 21, « Car celui qui n'a pas connu le péché... » Qui ça? Jésus-Christ. Il l'a fait être péché pour nous. Il, c'est qui? Dieu le Père. Dieu le Père l'a fait être péché pour nous, afin que nous, afin dans le but que nous, nous devenions justice de Dieu en lui. Les deux aspects sont là. Très important de saisir que les deux aspects sont là. Et maintenant, on va regarder la souveraineté du Saint-Esprit dans le salut, pour terminer notre étude. On a fait d'abord que c'était une décision trinitaire. Ensuite, on a regardé Dieu, la part de Dieu le Père dans le salut. On a regardé Dieu le Fils. Maintenant, on va regarder Dieu le Saint-Esprit. Alors, notre salut concerne chaque personne de la Trinité. Le Père par la prédestination. Le Fils par la rédemption et la propitiation. Le Saint-Esprit par la régénération et la sanctification. Le rôle de chacun est bien déterminé. Alors, le Saint-Esprit a participé à l'œuvre du salut. Comment? D'abord par le fait de l'envoi de Christ. On lit dans Ésaïe 48, verset 16. « Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret depuis le temps où cela est. J'y suis, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé ainsi que son Esprit. » Donc, le Saint-Esprit a participé dans l'envoi de Christ, dans l'incarnation de Christ aussi. Des fois, on n'y pense pas, là, mais c'est ça que les Écritures nous enseignent. Dans Matthieu 1, versets 18 à 20, « Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, qui avait été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'Esprit Saint avant qu'ils se fussent réunis. Et Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas l'exposer à l'opprobre, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il pensait à ces choses, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle provient de l'Esprit-Saint. » Aujourd'hui, même des théologiens qui sont connus commencent à nier cette vérité-là, en disant que c'est Joseph qui était le père, puis c'est pas l'Esprit-Saint. Mais si tu commences à nier ça, tu nies une très, très, très grande vérité des Écritures et tu es en train de déraper, comme on dit. Et je nommerai pas de nom, là, mais en tout cas, je pourrais vous en parler. Des grands théologiens connus et influents commencent à parler, à nier ces choses-là, pourtant, qui sont, moi je trouve qu'ils sont clairs comme l'eau de roche dans les Écritures, là. Alors, l'incarnation de Christ. Donc, l'envoi de Christ, l'incarnation de Christ, le sacrifice de Christ. Quand on lit dans Hébreux 9, au verset 14, « Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous rendiez votre culte au Dieu vivant? » Oui, « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel. » Donc, la part du Saint-Esprit, quand Jésus s'est offert, c'était par le Saint-Esprit, comme ça dit dans le texte. Sa venue du Saint-Esprit dans le monde aussi, sa part dans le salut, la souveraineté de Dieu le Saint-Esprit dans le salut, c'est le fait que lui avait été promis qu'il vienne, quand Jésus est parti, il dit « Je vous enverrai un consolateur ». Donc, lui, sa part, c'était de venir au moment que Dieu avait décidé de choisir, avait choisi pour lui de venir, pour accomplir sa part des choses. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, et en lui aussi, qu'après avoir cru, vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse. » qui est les arts de notre héritage pour le rachat de son acquisition à la louange de sa gloire. Souvent, on lit les Écritures, on est paresseux des fois. Je sais que je suis paresseux des fois moi-même. On est tous paresseux un petit peu. Quand on rencontre des mots qu'on ne connaît pas dans les Écritures, là, c'est toujours très payant de prendre le temps d'aller fouiller dans un bon dictionnaire biblique. Si vous n'avez pas un, achetez-vous-en un. Parce que quand vous arrivez, vous lisez un passage comme ça, vous tombez sur un mot, il parle du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts, A-R-R-H-E-S. Si je vous faisais venir un par un en avant ici, puis je dirais, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire, les arts du Saint-Esprit. Bien, on manque le bateau quand on lit un texte, puis qu'il y a des mots qui sont là, qu'on ne prend pas la peine d'aller vérifier ce qu'ils signifient, on manque le bateau. Parce que les arts, c'est un avant-paiement. C'est comme un paiement que du Seigneur. Autrement dit, le Saint-Esprit, le Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous sceller dans notre salut. Un sceau, il nous scelle. Mais les arts, c'est comme l'avant-paiement de ce qui va arriver plus tard quand on va mourir, quand on va aller au ciel. Alors, il nous donne un avant-paiement, mais c'est un gros avant-paiement. Alors, c'est intéressant de lire des passages comme ça, mais c'est intéressant aussi de réaliser qu'à cause de notre paresse, parfois, on manque des beaux concepts théologiques qu'on a besoin de comprendre. Alors, je vous conseille, si jamais vous n'avez pas un dictionnaire biblique, achetez-vous-en un. Puis, si vous ne savez pas lequel acheter, vous me viendrez me voir, je vais vous en suggérer un. Donc, le sacrifice de Christ était offert par l'Esprit-Saint. Sa venue, alors Jean 14, verset 26, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes les choses que je vous ai dites. » Donc, le Saint-Esprit avait un rôle à jouer et il était envoyé pour jouer le rôle de enseigner et de nous faire remémorer, nous faire ressouvenir des choses qui concernent le Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'on serait porté à penser que le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans la justification? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. « Et c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. » Mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, le Saint-Esprit a joué un rôle dans notre justification. Maintenant, un des grands rôles du Saint-Esprit, que s'il ne l'avait pas fait ce rôle-là, on serait pris 7 personnes ce matin. La régénération, la nouvelle naissance, le naître de nouveau. Alors dans Tite, chapitre 3, versets 4 et 7, ça dit « Mais quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres qui fussent dans la justice et que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde, par le moyen du bain de la renaissance et du renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous richement par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devinssions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Alors, l'idée à retenir, c'est que Jésus, le conseil trinitaire avait décidé que pour comprendre qui est Christ, comprendre notre salut, il fallait que le Saint-Esprit vienne nous habiter, nous régénère, nous donne la vie nouvelle. On était morts spirituellement. Il fallait qu'il nous redonne la vie pour qu'on puisse saisir qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. Donc, il y avait un rôle très important parce que s'il ne nous avait pas fait naître de nouveau et régénéré, personne ne serait ici ce matin. Personne n'aurait jamais rien compris à l'œuvre de Jésus-Christ. Autre rôle qu'on oublie souvent aussi par rapport au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait dans le salut, c'est celui de l'adoption. Christ aurait pu, le Père aurait pu, Christ aurait pu venir, mais il n'y a rien qui obligeait Dieu à nous adopter comme ses enfants. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. « Mais lorsque fut arrivée la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils venu d'une femme venue sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui sont sous la loi et que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils criant « Abba, Père ». Abba, ça veut dire « petit papa d'amour ». C'est une belle expression. Hein? La révélation maintenant, Christ, le Saint-Esprit permet, la révélation ça veut dire enlever le voile, permettre qu'on comprenne des choses. Selon vous, on est-tu capable de comprendre les Écritures si on les lit d'un couvert à l'autre sans l'aide du Saint-Esprit?
Non.
Bon, mais c'est un de ses rôles, quand de venir nous révéler Christ. Le dernier livre des Écritures s'appelle « La révélation de Jésus-Christ », le dévoilement, le grand dévoilement final. On a vu son côté souffrant, mais là on va voir son côté glorieux. Alors la révélation... C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures, à la compréhension de qui est Christ et de ce qu'il a fait pour nous. C'est lui, c'est son rôle. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, ça dit « Or, Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » Car lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors le Saint-Esprit a accepté de communiquer les bienfaits du sacrifice rédempteur de Christ aux élus. Jean, chapitre 3, verset 8. « L'esprit souffle où il veut, et tu en entends la voix. » Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'Esprit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais nous devons rendre grâce à Dieu, à votre sujet, frères, aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Alors, c'est important de faire une révision comme ça, de se rendre compte que l'œuvre du salut, c'est une œuvre du Dieu trinitaire. Le Père avait une part, le Fils avait une part, le Saint-Esprit avait une part. Alors, si c'est une œuvre du Dieu trinitaire, que Dieu est parfait, c'est-tu solide notre salut? C'est pas solide. C'est une œuvre du Dieu trinitaire. Alors, le Saint-Esprit a rempli et continue aussi de remplir ses engagements. Alors, il y a un de ses engagements, ça a été la formation miraculeuse à la nature humaine de Christ. On a lu dans Luc 1, verset 34-35, « Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Elle est en train de dire qu'elle va être enceinte, puis elle n'était pas mariée, puis elle n'avait pas couché avec personne encore. « Comment ça va arriver, tout ça, là? » Fait que, et répondant, l'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint petit enfant qui aura été engendré sera appelé Fils de Dieu. » Alors, il a comblé aussi Christ de ses dons et de ses grâces, parce que quand il est venu, les Écritures nous enseignent que le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Alors, dans Ésaïe 42, verset 1, « Voici mon esclave, je le soutiens, c'est mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Parlant de la personne de Jésus-Christ, « J'ai mis mon esprit sur lui, il manifestera le droit aux nations. » Ésaïe 61, verset 1. Et Jésus, c'est dans une prophétie concernant Jésus. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture des cachots. » Ça, il parle de nous. Hein. Tant qu'on était pécheurs, on était dans des cachots, on avait le cœur brisé, il est venu pour nous guérir, parce que ça dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi » et on parle de Christ. Alors le rôle du Saint-Esprit, c'était vraiment de combler Christ de ses grâces et de ses dons. Maintenant, il avait pris des engagements aussi envers les hommes. C'est important de se souvenir de cela, parce que le Saint-Esprit a contribuer ou pourvu aux offices publics ayant un rapport avec la proclamation de l'Évangile. Autrement dit, il y avait des choses qui étaient nécessaires pour que l'Évangile puisse être répandu, puisse être proclamé, puisse être prêché. Alors, parmi ces choses-là qui étaient nécessaires, il y avait les prophètes. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Sachant avant tout ceci, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une solution particulière, car jamais prophétie ne fut apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit-Saint que parlèrent les saints hommes de Dieu. » Maintenant, les prophètes, c'est du Saint-Esprit, les apôtres, acte 1, versets 4 et 5, « Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean, il est vrai, baptisa d'eau, et que vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint peu après ce jour. » Alors, c'est vraiment, les apôtres étaient des personnes que le Saint-Esprit a choisies et dont il était utilisé pour proclamer et diffuser l'Évangile. Et bien entendu, les Écritures nous enseignent aussi, ça c'était au début. Les Écritures, les prophètes, c'était pour qu'ils contribuent à écrire ce qui était pour venir. Les apôtres étaient au début, au début. Mais maintenant, au cours des siècles, Dieu a voulu que le Saint-Esprit appelle des ministres à expliquer les Évangiles ou les Écritures à son peuple. Et ça, c'est les ministres de Dieu, les pasteurs. Acte 13, verset 2. « Et comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés à moi. » Alors, normalement, une personne qui est pasteur, c'est parce qu'il a été appelé de Dieu à remplir cette fonction-là. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, comme on vient de le voir. Ce n'est pas l'être humain qui décide de faire une chose. Il peut le faire, mais il va se tromper. S'il a vraiment été appelé de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a qualifié pour remplir la fonction pour laquelle le Saint-Esprit l'appelle. Et ça a été, au cours de tous les siècles, Dieu s'est choisi des hommes dans toutes les régions du monde, dans toutes les villes, dans toutes les églises locales du monde, pour qu'il y ait des personnes qui puissent expliquer les Écritures à son peuple. Maintenant, ça, c'est des besoins, on pourrait dire, les besoins publics du peuple de Dieu. Donc, les prophètes, les apôtres, les ministres de la parole. Maintenant, il y a des besoins, on pourrait dire, privés des hommes. Il y avait des besoins privés. Autrement dit, nous, est-ce qu'on serait ici ce matin si le Saint-Esprit ne nous aurait pas convaincus de péché, de justice et de jugement? Parce que ça dit, On a besoin, le pécheur a besoin d'être convaincu. S'il n'est pas convaincu, il viendrait jamais au Seigneur. Alors, ça dit dans Jean 16, versets 7 et 8, « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car à moins que je ne m'en aille, le défenseur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en fait de péché et de justice et de jugement. » Le besoin de régénération spirituelle. Les Écritures nous disent qu'on est mort spirituellement avant que le Saint-Esprit nous régénère. Donc, on a besoin d'être régénéré. On est mort spirituellement. La communication avec Dieu ne passe plus. Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres qui fussent dans la justice et que nous eussions faites, nous, mais selon sa miséricorde par le moyen du bain de la renaissance et du renouvellement de le Saint-Esprit. » Le besoin de donner la foi qui sauve. Alors, ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 21 et 22, « Mais celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. » Et le besoin de sanctification, autrement dit, le Seigneur, si on regarde nos vies, disons que ça fait 30 ans qu'on est sauvé, si on regarde nos vies au début, quand le Seigneur est venu nous chercher, on était dans un certain état spirituel. OK, on comprend, il nous fait comprendre qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, mais on est plein de défauts. Et même après 30 ans, on est encore, il en a encore beaucoup à enlever. La sanctification, c'est progressif, c'est quelque chose qui prend toute une vie. Ça se fait... pour certains plus rapidement que d'autres, dépendamment de notre implication dans le processus. Alors, ça dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu, à votre sujet, frère, aimé du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification du Saint-Esprit et dans la foi en la vérité. » Donc, la sanctification du Saint-Esprit, ça fait partie de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, dans notre salut. C'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Ah, ben moi, ça ne me tente pas de me sanctifier. Si tu es né de nouveau, Dieu va te sanctifier automatiquement. Donc, tu vas progresser dans son œuvre. Autre chose, et non pas la moindre, le besoin de fortifier chacun de ses élus et de les rendre capables. Avez-vous remarqué combien de fois dans nos vies, on lit les Écritures et que le Seigneur nous demande quelque chose qu'on sent qu'on n'est pas capable de le faire. Je ne sais pas si ça vient d'arriver, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Alors, il nous demande quelque chose et on se dit, voilà, moi, pas capable de faire ça. Mais toi, tu n'es pas capable, ça c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, normalement, quand il appelle quelqu'un à faire une tâche, il l'équipe. Il le forme et il lui donne ce qu'il a besoin, ses besoins, pour remplir la fonction pour laquelle le Seigneur l'appelle. Si le Seigneur t'appelle, le Seigneur, il me dirait du jour au lendemain, moi, je t'envoie dans un pays musulman où il y a vraiment, là, les musulmans sont vraiment, ils veulent même pas entendre parler de l'Évangile. Si tu parles de l'Évangile là, on te zigouille. Si le Seigneur dirait, Marcel, je veux que tu ailles dans tel pays, puis il me dirait que c'est un pays musulman, puis il me dirait la difficulté que je vais avoir en y allant. Si Dieu t'appelle à le faire, il va te donner les grâces, la formation et l'équipement dont tu as besoin pour accomplir ta fonction. Ça, c'est important, là, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé sur la terre, il y a des choses qui sont très difficiles à faire, comme Paul, qu'est-ce qu'il faisait, là? T'en aller dans des villes de païens, puis leur statut, c'était de l'idolâtrie. On le sait, à plusieurs reprises, il a passé laisser sa vie. Mais c'est Dieu qui lui donnait la force. C'est la grâce de Dieu qui permettait qu'il puisse continuer son œuvre malgré les découragements qu'il a dû connaître, la peur qu'il a dû connaître. Parce que sûrement, il y a des bouts qu'il a dû dire, « Seigneur, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas le courage. » Si Dieu te dit « vas-y », c'est parce qu'il te donne ce qu'il faut pour être capable de le faire. Alors, ça dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. C'est important de saisir ça parce que quand on lit les Écritures, il faut se souvenir du principe que le Seigneur nous a dit qu'on ne peut pas rien faire. Puis si Dieu nous demande quelque chose que nous on dit, ben, je suis pas capable, je ne sais pas faire ça, je suis pas capable. Ben, on sait qu'on se doit de se tourner vers Dieu et de lui demander de nous donner ce qu'on a besoin pour être capable d'accomplir ce qu'il nous demande. Sinon, on passe notre temps à dire, ben, moi, je suis pas capable, ben, moi, je suis pas capable, ben, moi, je suis pas capable, puis tu ne fermes rien. Oui, te percevoir que tu n'es pas capable, ça, c'est une affaire. Mais demander à Dieu de t'enlever cette peur, de t'enlever tout ce qui nous paralyse des fois pour faire l'œuvre du Seigneur. Quelles sont les applications qu'on peut tirer du texte? Moi, je dirais, une des applications, c'est de prendre conscience de la solidité et de la perfection du salut de nos âmes. C'est une œuvre du Dieu trinitaire. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait, comme on dit, d'aplomb. Deuxième chose, louons Dieu le Père pour sa part dans l'œuvre du salut, la prédestination. Si Dieu ne nous avait pas prédestinés au salut, on ne l'aurait jamais reçu. Troisième application, louons Dieu le Fils pour sa part dans l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. Et là, l'œuvre de la rédemption, là, on pourrait remplir la bâtisse de livres qui nous décriraient différentes facettes de ça, puis la bâtisse sera pas assez grande. C'est énorme. On peut travailler toute une vie à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, puis on n'a pas fini. Quand on pense qu'on a compris, on a compris en partie. Et louons aussi Dieu le Saint-Esprit pour sa part dans l'œuvre du salut, soit la régénération et la sanctification. Le Dieu trinitaire est souverain dans le salut. Que les trois personnes divines soient louées, bénies et adorées pour l'éternité. Amen.